France Inter, il est 8h. Voici Hélène Roussel pour le journal. Bonjour Hélène.
Bonjour. Et il comptait. Les Américains suspendus aux résultats dans 5 états clés. Biden se rapproche, Trump s'accroche. C'est toujours trop serré, le dépouillement pas terminé. Pas de victoire officielle donc pour le démocrate. Dans son fief du Delaware, Joe Biden a pris la parole cette nuit. Nous allons gagner. Confiant mais prudent, rassembleur aussi d'une nation déchirée. Nous sommes sur place à Wilmington dans ce journal et puis aussi en Pennsylvanie. Le gros morceau, 20 grands électeurs, et où va sans doute se jouer l'élection dans les heures qui viennent. Une semaine folle aux États-Unis. On en parle aussi avec vos invités, Eric.
Oui, à partir de 8h20, nous serons en direct de Washington avec Benjamin Haddad. Il est directeur Europe à l'Atlantic Council. C'est un think tank à Washington. Et puis, invité en studio, Justin Weiss. Il est historien spécialiste des États-Unis.
Dans le reste de l'actualité, Jean Castex sur tous les fronts à Nice ce matin pour l'hommage aux victimes de l'attentat dans l'église Notre-Dame. Et plus tard à l'hôpital de Saint-Étienne, le Covid et la flambée de contamination. Les élèves infirmiers mobilisés dénoncent des salaires de misère, vous l'entendrez. Et puis les sports, le Vendée Globe demain, les demi-finales du Masters 1000 de Paris-Bercy cet après-midi. Et l'esprit sport, quand les relations diplomatiques rattrapent le monde de la gymnastique, c'est à la fin du journal.
France Inter.
Biden-Trump collé, serré, le dépouillement toujours en cours, en Caroline du Nord, en Géorgie, en Arizona, dans le Nevada ou encore en Pennsylvanie, on y reviendra. Le démocrate prend le large, mais surtout ne pas vendre la peau de l'ours, rester dans les clous, prudent donc encore cette nuit quand il prend la parole devant ses partisans dans le Delaware.
Nous n'allons pas encore déclarer notre victoire, mais les chiffres sont très clairs. Nous allons gagner cette élection. Nous avons récolté 74 millions de voix. Jamais dans l'histoire des États-Unis, un ticket présidentiel n'avait remporté autant de suffrages.
Discours de Joe Biden, c'était il y a 3 petites heures. Et faut-il y voir un signe ? Donald Trump n'a pas répliqué, pas de tweet depuis. Les militants pro-Biden, quant à eux, apprécient les mots, le calme et la prudence de leur candidat. Ça sentait bon quand même la victoire cette nuit au QG de Wilmington dans le Delaware. Claude Guibal.
À la nuit tombée, quand Joe Biden arrive à la tribune du Chase Center de Wilmington, la foule derrière les grilles s'est clairsemée. Toute la journée, elle a attendu.
Ils peuvent lancer autant de procédures qu'ils veulent, recompter tant qu'ils veulent, les écarts sont tellement énormes. Je n'étais pas dans l'émotion aujourd'hui, jusqu'au moment où les courbes se sont inversées en Pennsylvanie. Et là, je me suis mise à pleurer parce que j'ai compris que c'était bon, c'était gagné.
Mais tous l'ont compris bien avant que Joe Biden ne s'adresse à eux, rassurant, confiant, répétant des mots déjà dits, respecter l'adversaire, patienter, avancer ensemble, se gardant bien de proclamer la victoire. Il a tout à fait raison, il n'a pas décrété la victoire car il n'a pas encore gagné, dit cette femme. Le processus n'est pas fini, il ne le fera pas tant que ce n'est pas fini. Et cela lui convient, dit-elle, je sais que nous allons gagner. À Wilmington, Claude Guibal, France Inter.
Record de suffrage, disait Joe Biden. 74 millions de voix, 4 millions d'avance sur Trump. Mais on sait que ce qui compte, ce sont les grands électeurs. Sébastien Paour, vous êtes en direct de Wilmington. Bonjour, bonsoir à vous.
Bonjour, oui. Bonsoir à vous.
Alors Biden se rapproche. Le compte n'y est pas encore au QG du camp démocrate. On espérait ce discours de victoire hier soir. L'ancien vice-président ne l'a donc pas prononcé.
Non, effectivement, on s'attendait à une soirée de victoire et puis on nous avait dit dans l'après-midi que ce serait une adresse à la nation, on pensait que ce serait quelque chose de solennel, de festif, vous en avez passé un morceau à l'instant. Ce n'est pas encore la fin de la partie et la fête n'a pas eu lieu, Joe Biden ne s'était pas proclamé vainqueur, il a utilisé presque les mêmes mots que lors de ses précédentes prises de parole ici au Chase Center, le centre de conférence de Wilmington. Les opposants ne sont pas des ennemis, je serai le président de tous les Américains. Il dit qu'il est convaincu que la plupart des électeurs sont derrière lui et il lance un nouvel appel au calme, nous devons laisser la colère derrière nous. 4 minutes chrono et puis le cortège s'en va. Sur le parking, derrière les grilles, on les a entendus, il y avait pourtant nettement plus de monde que les précédents soirs, avec des ballons gonflables en forme d'étoiles ou des t-shirts. J'ai survécu au Covid-19 et au virus 45. Allusion à Trump, le 45e président des États-Unis. Trump qui avait prévenu dans l'après-midi que son adversaire ne pouvait pas se proclamer vainqueur, dans un tweet. Et de fait, le décompte des voix ne le permet pas, hein, même si Biden est en tête dans 4 États sur 5 encore à compter. Les écarts sont faibles. Il y aura recomptage dans certains cas. Je vous donne les derniers chiffres. 28 800 voix d'avance pour Biden en Pennsylvanie. 96% des bulletins dépouillés. 4 400 voix d'avance en Géorgie sur 98% des votes. Un peu moins de 30 000 voix de plus en Arizona. Dépouillement à 97%. Et enfin, 22 600 voix de plus dans le Nevada. Biden a dit tout à l'heure qu'il espérait revenir parler aujourd'hui, samedi pour nous et pour vous.
Sébastien Paour avec Arthur Gerbeau à la technique en direct du QG de Joe Biden dans le Delaware. Merci à tous les deux. La Géorgie, vous l'avez dit, 4000 petites voix d'avance pour Biden. Il va falloir recompter. Il n'y a pas assez d'écart dans cet État. Un nombre record de votes par correspondance, favorable aux démocrates, qui explique ce retard dans les comptages, qui met aussi, on le sait, Donald Trump hors de lui. Des attaques jamais vues en plein dépouillement pour dénoncer des fraudes massives. Le président américain a engagé une armée d'avocats pour mener la bataille judiciaire. Je ne renoncerai jamais au combat pour vous, pour notre nation, a-t-il tweeté hier soir. Quand on voit à quel point c'est serré entre les deux candidats, alors que les sondages, on peut le rappeler, annonçaient une large victoire de Biden, c'est donc que l'Amérique de Trump est bien réelle. Des partisans partout dans le pays, comme ici en Pennsylvanie, où l'élection pourrait bien se jouer. Biden prend le large, Sébastien Paour nous l'a dit, 28 000 voix d'avance, mais les Trumpistes ne lâchent rien. C'est un reportage à Philadelphie de Mathilde Dehimi.
Chaque sono crache les décibels pour empêcher l'autre de s'entendre. Devant le centre de dépouillement, 200 démocrates font face à une dizaine de partisans de Trump protégés par trois rangées de policiers. Mais il ne faut pas se fier au nombre, dit Axel.
Il y a plein de supporters de Trump, mais le truc c'est qu'ils ne le disent pas et restent silencieux. Beaucoup ont peur de prendre la parole. Il y a plus de gens que vous croyez. Ils ne sont juste pas là.
Joe Biden est passé en tête en Pennsylvanie, mais Axel ne doute pas du résultat, même s'il se fait attendre.
À chaque jour suffit sa peine, il n'y a rien de neuf. Et si Biden passe, ça ne changera pas ma vie. J'aimerais que Trump reste, car il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais contrairement à ceux d'en face, je ne serais pas en colère si Biden gagne. Je serais déçu qu'il ait dû tricher pour gagner. Bien sûr qu'on doit aller en justice, car il triche.
James a traversé le pays, du Colorado vers la Pennsylvanie, quand il a su qu'une partie de l'élection se jouerait ici, sous de voir le dépouillement se dérouler dans de bonnes conditions.
Je suis le genre de gars qui a toujours foi en l'avenir, mais je pense que si on a une présidence Biden-Harris, ça sera traumatisant pour ce pays. Ça va causer beaucoup de souffrance, y compris pour ceux qui ont voté pour eux.
Les deux partisans de Donald Trump sortent tranquillement du dispositif policier sans être ennuyés par le camp d'en face. Philadelphie, Mathilde Dehimi, France Inter.
Pennsylvanie, gros morceau, 20 grands électeurs d'un coup, Biden en tête à l'image de cette Rust Belt. Nous avons reconstruit le mur bleu, a dit tout à l'heure le candidat, les démocrates de retour dans ces états du nord désindustrialisés. Il pourrait y avoir l'écart suffisant dans les heures qui viennent en Pennsylvanie au réveil des Américains tout à l'heure pour déclarer officiellement Biden président. Suivez ce scrutin historique sur France Inter, nos éditions, nos invités, puis nos nombreuses cartes décryptage aussi sur franceinter.fr.
Et à la une ce matin encore, la pandémie de Covid qui flambe.
Joe Biden, pour rester aux États-Unis, a prévenu son premier combat quand il sera installé à la Maison-Blanche. Ce sera la lutte contre le virus. Plus de 120 000 nouvelles contaminations aux États-Unis en 24 heures. Et pendant ce temps, la France, qui devient le pays le plus touché d'Europe, passe pour la première fois la barre des 60 000 contaminations en 24 heures. Un chiffre sans doute sous-estimé, prévient Santé publique France, à cause d'un bug informatique. 4000 patients en réanimation à ce jour. Et les hôpitaux, toujours à bout de souffle. Alors, partout des renforts s'improvisent, comme ici à Toulouse, avec des étudiants infirmiers, mobilisés, mais dans des conditions indécentes, dénonce leur syndicat. Voici le témoignage d'une élève en deuxième année.
Ce qui me met en colère, c'est que je vais perdre 2 semaines de ma formation, 2 semaines où j'ai déjà acquis les bases, j'ai déjà acquis le statut d'aide-soignant. Je vais perdre 2 semaines de ma formation en tant qu'étudiante infirmière où je ne vais pas pouvoir pratiquer, par exemple, des gestes techniques. Nous, notre stage nous est payé tout le temps 1,08€ de l'heure. On va faire fonction d'aide-soignant pour 1,08€ de l'heure.
Témoignage d'une élève infirmière mobilisée à l'hôpital de Toulouse au micro de Stéphane Iglesias. Le Premier ministre, lui, est attendu cet après-midi à l'hôpital de Saint-Étienne, épicentre de l'épidémie dans l'Hexagone. Jean Castex qui appelle ce matin dans la presse régionale plus que jamais à respecter le confinement de la manière la plus stricte possible. L'Europe tout entière se débat, l'Irlande, l'Angleterre et maintenant la Grèce ou certaines régions d'Italie aussi. Le confinement s'étend, plus souple qu'au printemps mais accueilli aussi avec plus de colère. Hier à Toulouse, place du Capitole, Capitole, tout de noir, vêtu. Un millier de restaurateurs, libraires, artistes ont participé à un flash mob pour dire leur peur de ne pas survivre. Un confinement acte 2 trop strict, ou pas assez, peut-être surtout trop flou. Par exemple, le gouvernement impose les demi-groupes au lycée, mais pas au collège. Dans le plus jeune et le plus pauvre territoire de France, en Seine-Saint-Denis, les habitants entre inquiétude et scepticisme. Reportage Laurence Perrin.
Grosse effervescence à la sortie du collège Jean-Jacques Rousseau du Pré-Saint-Gervais. Le masque est sur tous les nez, la contestation sur toutes les lèvres.
On dirait le corona, il rentre pas dans le collège. Il oublie son carnet.
Personnellement, je pense que Macron aurait dû mettre un confinement total pour reprendre l'année 2021 sur de bonnes bases.
Laurent Baron, le maire, a observé la scène de son bureau.
C'est exactement ce que mon fils m'a dit, moi. Il est en 5e au collège Jean-Jacques Rousseau.
Il refuse de polémiquer tout en regrettant une méthode très verticale.
Lors du premier confinement, on avait un rapport extrêmement étroit avec le préfet. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est très descendant. Voilà, le président de la République, le Premier ministre.
La dalle de l'hôtel du département, à une dizaine de kilomètres, déserte. La police y veille. Stéphane Troussel, le patron PS du Conseil Général.
De toute façon, les habitants de la Seine-Saint-Denis, ils exercent nombreux des professions qui ne sont pas télétravaillables. C'est premier de corvée, en première ligne, quoi qu'il arrive.
La crise sanitaire a aggravé la précarité, insiste le patron de la Seine-Saint-Denis.
Oui, il y a urgence à ce que les minima sociaux soient revalorisés. Il y a urgence à ce que les jeunes puissent accéder au RSA.
Et il en est convaincu, si la situation sanitaire imposait un confinement plus strict, les élus des territoires les plus pauvres ne manqueraient pas de rappeler à Emmanuel Macron son « quoi qu'il en coûte ».
Laurence Perrin, le front sanitaire, mais aussi le front sécuritaire. Jean Castex, avant d'aller à Saint-Étienne, se rend à Nice ce matin, 9 jours après l'attaque au couteau dans la basilique Notre-Dame. Hommage national aux 3 victimes, cérémonie sur la colline du château à 10h tout à l'heure, sous haute surveillance, Simon Soubieux.
La préfecture des Alpes-Maritimes parle d'un dispositif particulièrement significatif pour la journée. Des moyens très conséquents, des moyens terrestres tout d'abord, mais aussi des moyens aériens et maritimes. Des forces de l'ordre appelées de toute la France en renfort pour l'événement. Des filtrages seront réalisés au pied de la colline du château. Du côté de la cérémonie, seulement 200 personnes sont invitées à participer à l'hommage et plus de la moitié font partie des familles des victimes. Une cérémonie donc en petit comité. Tout a été paramétré, dit la préfecture, pour limiter les risques et puis évidemment pour respecter les règles sanitaires, 1 mètre de distance entre les personnes. La cérémonie va donc durer environ 1 heure avec l'arrivée de Jean Castex à 10h. Il échangera ensuite dans la plus stricte intimité avec les familles des 3 victimes.
Simon Soubieux de France Bleu Azur pour France Inter.